Encore un peu plus tard, l'ancienne usine Blanc va résonner à nouveau sous le maillet et les machines à bois d'Antoine Bayot. Elle s'enrichit également des effluves du brasseur artisanal Max Skubitsch. Puis l'usine Bobichon devient à son tour atelier et habitation d'un couple d'artistes. Elle, c'est Réjeanne, comédienne. Et lui, c'est Philippe Sommer-Alter, sculpteur. L'usine Sainte-Julie, un premier temps occupée par des archéologues du futur, devient également lieu de résidence pour artistes de spectacle sous le tendre nom Les Saints-de-Julie. Enfin, on change légèrement de registre avec la reprise de l'ancienne usine Perrier un an seulement après sa fermeture par la compagnie de danse La Trisande, animée par Delphine Gault, danseuse et chorégraphe, et par Franck Besson, régisseur général et éclairagiste.
Bah donc nous on est arrivé en juillet 2004, donc ça va faire 4 ans, dans l'ancienne usine Perrier, plus connue sous le nom d'ancien tissage Schmelz, puisque c'est Madame Schmelz qui tenait l'usine jusqu'en novembre 2003. Donc c'est vrai qu'on est arrivé dans une usine qui venait tout juste de fermer, enfin en tout cas d'arrêter son activité, puisque nous on n'a pas l'impression qu'elle a vraiment fermé justement. Puisqu'on est arrivé dans un lieu qui était encore tout chaud.
Il y avait encore les machines ?
Il y avait tout, il y a encore beaucoup de choses et on y tient, mais on a été obligé aussi de faire un grand ménage pour se libérer quelques espaces liés à notre activité et aussi à notre lieu de vie, puisqu'on en a fait aussi un lieu de vie.
C'est vrai que la première année, moi, quand j'ai voulu ouvrir le studio et puis vraiment démarrer l'activité le plus vite possible, au départ, moi, je cherchais vraiment un lieu de travail, un atelier, qui c'était de plus en plus difficile à trouver sur Lyon, parce qu'en fait, c'est des espaces qui sont déjà très, très demandés, donc il faut courir partout et être sans arrêt sur des plannings et anticiper pour trouver ces lieux-là. Et mon rêve aussi, c'était aussi de quitter le milieu urbain et d'avoir vraiment un pied-à-terre, une vie, une résidence à la campagne. Et de pouvoir allier à la fois cette présence forte à la nature et aussi avoir mon lieu, mon activité. Et donc toutes ces conditions se sont réunies ici à Saint-Julien, quoi. Ça a été un gros challenge quand même parce que la danse n'existait pas ici. Puis le village n'était pas connu pour une activité pour le corps, les mouvements. Et donc on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de travail de communication et évidemment on avait déjà un réseau assez répandu, assez important lié à l'activité de la compagnie et puis de pédagogie. Mais en fait il y a une chose qui fonctionne très très bien, c'est en fait Internet. Moi je communique presque uniquement comme ça. Et comme en fait on travaille beaucoup sur des techniques qui sont liées à l'improvisation, ce qu'on appelle la danse contact improvisation, il y a tout un réseau international en fait qui communique beaucoup par email. Donc en fait on a des gens maintenant qui viennent pratiquement de partout. Voilà, on a une provenance internationale. Donc les premiers temps c'était très étonnant et c'était très gratifiant de voir les premières personnes arriver pour les stages. C'était vraiment magique quand l'activité a commencé à naître.
La plupart des stagiaires sont vraiment très très sensibles à la fois au lieu et ce qu'il contient encore de tout son passé et à la fois aussi au village. Parce que c'est vrai que tout le monde est très surpris en arrivant dans ce village de s'apercevoir qu'il y a une radio locale, qu'il y a une assos qui fait des concerts, Radio d'ici, qu'il y a d'autres artistes, que en fait, il y a, en plus les périodes de stage, il y a souvent beaucoup d'autres activités en même temps. Et c'est vrai que c'est un tout entre la particularité de notre lieu et la particularité de Saint-Julien qui font que les gens se sentent vraiment bien et ils ont envie de revenir, ils en parlent autour d'eux. Et voilà, je crois que là maintenant, on a fait le plus dur. Moi, je me sens bien intégré dans la mesure où même si peut-être tout le monde dans le village ne sait pas encore exactement, très précisément qui on est et qu'est-ce qu'on fait, je pense que quand même, contrairement à d'autres usines, vu qu'on est très central dans le village, les gens nous croisent, les gens voient les stagiaires arriver, sortir. Ils nous ont vu beaucoup travailler au début aussi pour ce lieu, certainement en se demandant un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire, si on n'allait pas jeter toutes les machines aussi. On a eu l'occasion d'ouvrir les portes quelques fois, donc je pense que les gens se sont aperçus aussi qu'on était très sensibles à ce lieu pas qu'en termes immobiliers, c'est-à-dire que c'était pas seulement arriver ici pour avoir un grand lieu, faire un studio et une maison. Moi je suis issu d'un milieu ouvrier et une partie de ma famille a d'ailleurs travaillé dans le textile dans la Loire. Et moi, dès que je suis arrivé dans ce lieu, avant de commencer à faire des plans d'un studio ou d'une maison, j'étais complètement fasciné par tout le passé, les vieux outils, les odeurs, et je le suis encore, quoi. Même si on n'a pas d'envie particulière de faire un musée ou quoi que ce soit, on est quand même dans un souci de préservation d'un maximum de choses.
Ainsi va la vie à Saint-Julien-Molin-Molette, petit village de 1200 âmes, niché dans l'écrin du parc naturel régional du Pilat et dont la renommée ne cesse de s'étendre bien au-delà des frontières et peut-être sans limite dans l'imaginaire.
Soi-disant, une émission réalisée par Radio d'ici, dans le cadre des Journées du patrimoine de pays, les 14 et 15 juin 2008.